Les 24 et 25 mars prochains, les évêques de France, entourés de délégations des différents diocèses, se retrouvent à Lourdes pour rendre grâce des 50 ans du Concile Vatican II. Une initiative de Mgr Laurent Ulrich, l'archevêque de Lille, mais aussi vice-président de la Conférence des évêques de France. La date officielle de l'anniversaire de ce concile, ça sera le 11 octobre, à l'automne prochain. Mais en attendant, l'Église de France souhaite célébrer cet événement toute l'année. Cet anniversaire est l'occasion pour les fidèles de redécouvrir le message du Concile au travers de conférences menées par des ecclésiastiques ou des théologiens. Samedi, Mgr Antoine de Rochebrune, vicaire de l'Opus Dei en France, était de passage à Lille pour une conférence sur ce thème précisément. Laure Martin l'a rencontré.
Alors l'Opus Dei, c'est une institution assez jeune dans l'Église catholique, puisque l'Opus Dei est né en 1928. Et c'est une institution qui a pour mission la diffusion de l'appel universel à la sainteté au milieu du monde, c'est-à-dire que nous sommes là pour aider, parmi d'autres, les laïcs à chercher à vivre une vie chrétienne intense dans leur famille, dans leur travail, avec une aide à la spiritualité, à la formation.
Combien de fidèles ça représente dans le monde et en France ?
Dans le monde, ça représente environ 90 000 fidèles, vous voyez, c'est pas mal. En France, l'Opus Dei est petite, puisqu'il y a environ un millier de fidèles, et aussi quelques milliers de personnes qui sont coopérateurs ou amis, qui participent aux activités. L'Opus Dei est petit en France, donc pas très bien connu.
On parle souvent, quand on parle de l'Opus Dei, on parle aussi de son fonctionnement avec les termes, la hiérarchie, les numéraires. Est-ce que vous pouvez un petit peu dévoiler qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ?
Ben, l'Opus Dei est une institution qui fait partie de l'Église et qui fonctionne un peu comme un peuple, avec aussi des prêtres, un évêque à la tête. Donc il y a une hiérarchie, évidemment. Et il y a des membres, des fidèles, qui ont des caractéristiques de vie différentes. Certains sont appelés dans le célibat, célibat apostolique, des laïcs, j'entends, et que l'on appelle des numéraires. Et d'autres vivent leur vocation chrétienne dans le mariage, et on les appelle des surnuméraires. Ces noms sont dérivés de la fondation, on va dire, qui a été en Espagne. Saint José Maria Escrivá, qui était le fondateur, avait utilisé cette terminologie, qui peut nous sembler peut-être un peu étrange en France, à partir du corps professoral espagnol, parce qu'il cherchait une terminologie qui n'était pas propre à la vie religieuse, parce que les gens de l'Opus Dei sont des laïcs et non pas des religieux.
C'est ce qui explique justement ces mots un peu mystérieux.
Oui, qui sont mystérieux quand on les entend peut-être pour la première fois, mais quand on les utilise de manière courante. En fait, une personne qui connaît l'Opus Dei et qui la fréquente se familiarise sans aucun problème, difficulté avec... Il n'y a pas un jargon propre non plus particulier au sein de l'Opus Dei.
Alors, l'Opus Dei, ça a été approuvé par le Vatican dans les années 50, reconnu par le désormais bienheureux Jean-Paul II, qui en a fait une prélature personnelle. Pourtant, il y a toujours cette idée qui revient régulièrement sur la scène médiatique, que l'Opus Dei est une secte. Comment vous l'expliquez ? Comment vous abordez cette question ?
Je l'aborde un peu avec blessure, parce que je me sens évidemment assez blessé par ce genre de déclaration un peu facile. Quand on est catholique, on a du mal à entendre le mot secte sans réagir, alors que la liberté fait partie, je dirais, du message intrinsèque des catholiques, et il est vraiment au cœur du message de l'Opus Dei, donc ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est une mécompréhension qui me semble tout à fait blessante. L'Opus Dei a été... bien sûr, dès le début, en 1928 et ensuite dans les années 50, connu par la hiérarchie de l'Église, par le Saint-Siège, et dans ce statut de, le statut de prélature personnelle, c'est un petit peu un statut comme les diocèses, mais sans territoire. C'est comme il y a les paroisses personnelles, par exemple, qui peuvent exister dans les diocèses, et il y a des prélatures personnelles aussi. C'est un peu comme le diocèse aux armées, c'est-à-dire que c'est une structure qui n'est pas d'ordre religieux, mais d'ordre séculier, on va dire.
Alors, ce statut de prélature personnelle que vous a accordé Jean-Paul II, on en a parlé récemment dans la démarche de réconciliation avec la fraternité Saint-Pilis. En France, l'Opus Dei est la seule institution à avoir ce statut de prélature personnelle. Il faut donc préciser que ça vous rend indépendant des évêques de France.
Pas du
comment,
tout.
Comment ça va vous permettre de travailler dans l'Église de France en lien avec le Vatican ?
Oui, je tiens à réagir. Nous ne sommes absolument pas indépendants des évêques. Au contraire, l'une de mes fonctions, c'est d'être en lien permanent avec les évêques. Et nos activités ont lieu ici. À Lille, par exemple, en paroisse, accueillie par le diocèse. Nous travaillons avec les diocèses, dans les diocèses, et en pleine communion avec eux, et sans indépendance, absolument. Enfin, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Pour ce qui est du possible statut de la fraternité Saint-Pilis, là, je ne sais rien de plus que ce que savent les gens. Donc, je ne peux rien dire. Ce que je sais simplement, c'est que nous ne voulons pas être indépendants des diocèses. Hein. Nous voulons être avec eux.
Comment ça construit votre relation avec le Vatican par rapport à l'Église de France, ce statut de prélature personnelle ?
Alors, la prélature, c'est comme le diocèse. Hein. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, nous dépendons du Saint-Siège, comme les diocèses, dans la congrégation des évêques. Les gens disaient éventuellement que l'Opus Dei dépendait directement du pape, ce qui est faux. Nous dépendons de la congrégation pour les évêques, comme les diocèses. Et ici en France, nous sommes pleinement unis à la Conférence des évêques de France, hein, et si bien que nous sommes en lien avec les évêques des lieux des diocèses où nous travaillons. Donc, la jonction avec l'Église locale et l'Église universelle, elle est complète. Hein.
Alors, les 24 et 25 mars prochains, les évêques de France se réunissent à Lourdes pour leur assemblée plénière, mais donc ça sera précédé cette année d'une rencontre exceptionnelle avec également les délégations diocésaines qui vont rejoindre la grotte de Massabielle pour célébrer ce concile Vatican II. Vous y serez ?
Alors, je ne pourrai pas y être parce que je suis retenu à Paris par une célébration. Mais effectivement, en tout cas, j'y serai avec le cœur et avec la prière, sachant qu'il y aura encore bien d'autres célébrations durant l'année qui vient pour célébrer le Concile Vatican II, qui est vraiment un concile, la boussole pour notre temps. Hein. C'est ainsi que Jean-Paul II l'a évoqué, tout comme Benoît XVI. Et il est juste de célébrer cet anniversaire, mais aussi d'avancer dans la compréhension de ce qu'a été le Concile Vatican II en se proposant tout simplement de lire les textes. Parce que parfois, on parle beaucoup d'une chose, mais on ne l'étudie pas. Donc, quelle belle occasion pour l'étudier.
L'anniversaire officiel de ce Concile Vatican II, ça sera le 11 octobre, donc à l'automne prochain. Vous avez dit vous-même qu'il fallait lire plutôt que parler de façon vague du Concile Vatican II. S'il y avait un fruit à redécouvrir de ce concile, parce qu'on parle beaucoup évidemment de l'œcuménisme, de la place des laïcs dans l'Église, de la réforme liturgique, pour vous, qu'est-ce qu'il y aurait à redécouvrir de ce Concile Vatican II qu'on aurait peut-être oublié ou laissé sous la poussière ?
Je vais vous répondre en vous disant ce que je pense profondément. Je pense que nous n'avons pas fini de découvrir et de redécouvrir ce qu'est l'Église dans le monde. Et l'un des apports majeurs du Concile Vatican II, pas le seul, hein, c'est la constitution apostolique, la constitution doctrinale Lumen Gentium sur l'Église dans le monde aujourd'hui. Et la redécouverte de ce qu'est l'Église, du positionnement des laïcs dans l'Église et des prêtres, hein, une vision correcte de l'ecclésiologie aujourd'hui me semble tout à fait nécessaire et indispensable, et ça a beaucoup de conséquences pratiques dans la manière avec laquelle nous, les chrétiens, nous envisageons notre rôle et notre mission au sein même de l'Église.
Le pape Benoît XVI a entamé une démarche sur la nouvelle évangélisation. Comment vous abordez cette démarche de nouvelle évangélisation? Est-ce que vous parlez aussi d'urgence? Est-ce que l'Opus Dei a une stratégie, un plan d'attaque?
À 100%, la nouvelle évangélisation nous entend concernés, comme toute l'Église, à 100%. Et à notre manière, je veux dire, la manière de l'Opus Dei d'évangéliser, c'est de promouvoir le rayonnement individuel des personnes, le témoignage personnel des personnes autour d'eux, dans le travail, dans la société, dans la famille. C'est-à-dire que les gens de l'Opus Dei, je les appelle, et les amis et tous ceux qui veulent m'écouter, je les appelle individuellement à être des braises enflammées autour d'eux, c'est-à-dire de communiquer autour d'eux l'amour de Dieu, la connaissance de l'Église, et c'est à chacun d'entre nous d'être des lumières dans le monde, qui donne cette lumière. Alors c'est peut-être une nouvelle évangélisation qui peut sembler désordonnée, parce qu'elle est très individualiste d'une certaine manière, mais le ferment dans la pâte, c'est ça. C'est-à-dire que chaque chrétien, là où il est, doit être intense. Donc il s'agit de nous intensifier chacun d'entre nous.
Si on revient sur le Concile Vatican II, qui a mis la parole de Dieu à l'honneur, si on utilise les termes d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une phrase qui vous guide dans votre vie aujourd'hui?
Alors là, vous me posez une question un peu difficile, mais j'aime bien, dans la Sainte Écriture, l'image de la vigne et des sarments, demeurez en moi et moi en vous. Si le sarment n'adhère pas à la vigne, il ne peut pas donner de fruits. Le Seigneur nous appelle à quelque chose de très particulier, c'est de demeurer en lui et lui en nous, ce qui est un peu mystérieux. Ça signifie, et c'est vraiment l'esprit de l'Opus Dei, c'est chercher à faire vivre le Christ en chacun d'entre nous. Et c'est là que se trouve finalement cet appel universel à la sainteté, c'est que chaque baptisé peut faire l'expérience d'une relation si intime avec le Christ que le Christ peut vivre en lui, peut habiter en lui. Et par l'effort de la prière, par l'effort des sacrements, mais demeurer en nous et que nous demeurions en lui.